Salut à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs de Radio Slash. Ici Emma pour vous présenter la dernière émission du Grand Buffet. Alors, au sommaire aujourd'hui, un billet d'humeur écrit par Célia, qui est malade aujourd'hui, on pense fort à elle, ainsi qu'un poème lu par Tiziano, un papier sur la proprioception par Héloïse, un très joli texte sur les corps humains écrit par un interne en médecine lu également par Héloïse, accompagné en direct par Tiziano au piano, un micro-trottoir avec la question « Comment te vois-tu dans 10 ans ?» et surtout un invité. Nous accueillons Stéphane Adam, directeur de la communauté pluriprofessionnelle territoriale de santé d'Étoile sur Rhône. Bonjour Stéphane, sois le bienvenu.
Bonjour, merci. Bienvenue.
Alors, c'est parti avec Tiziano et le billet d'humeur de Célia, contrôle surprise.
Lundi 8h, t'as encore les miettes de pain avec du chocolat dans les yeux, t'as fait le mur dans ta tête tout le week-end pour oublier le lycée qui existe. Et là, le prof, il pose ses affaires, il sourit, sortit une feuille, contrôle surprise. Surprise ? La seule surprise si, un jour, il n'y en a pas. 8h du matin, c'était pas une heure pour réfléchir, c'est une heure pour survivre. Mon cerveau, il est encore en pyjama. Il a pas signé pour du théorème de Thalès. Hein. Et la phrase bonus, c'est du cours. Si vous avez écouté, vendredi, vous savez. Vendredi, 17h. Le moment où tout le lycée est déjà mentalement à bout. Bien sûr qu'on a écouté. Résultat, 20 minutes à fixer ta copie comme si la réponse allait apparaître par magie. Spoiler alerte, elle apparaît jamais. On appelle ça un contrôle. Moi, j'appelle ça une tentative de meurtre sur mon week-end.
Très drôle, effectivement. Il y a des jours comme ça. On enchaîne avec Héloïse qui va vous parler de la proprioception.
On parle souvent des cinq sens, la vue, l'ouïe, le toucher, des choses bien connues. Mais il en existe un autre, beaucoup moins célèbre, la proprioception. C'est dur à dire, non ? Allez, essaye Stéphane.
La proprioception.
Parfait. Alors qu'est-ce que c'est ? Imagine, tu fermes les yeux et tu lèves un bras. Mais sans le regarder, tu sais exactement où il se trouve. Ce n'est pas de la magie, c'est la proprioception. Dans notre corps, il existe de petits capteurs situés dans les muscles, les tendons et les articulations. Ils envoient en permanence des informations au cerveau pour lui indiquer la position du corps et ses mouvements. Grâce à cela, on peut marcher sans regarder ses pieds, garder l'équilibre ou encore attraper un objet avec précision, presque automatiquement. La proprioception joue aussi un rôle essentiel dans le sport. Elle permet de réagir rapidement, d'éviter les chutes et de coordonner les gestes. Mais ce système peut être perturbé. Après une blessure, comme une entorse, ou simplement avec la fatigue, la sensation diminue. Les mouvements deviennent alors moins précis et le risque de chute augmente. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut l'améliorer. Comme par exemple avec des exercices simples, comme se tenir en équilibre sur un pied, marcher sur une ligne droite ou utiliser un ballon, permettre de les renforcer. Quelques minutes par jour suffisent pour progresser et mieux contrôler son corps.
Merci Héloïse, c'est effectivement très intriguant ce sens de la proprioception. À vous chers auditeurs, on vous a donné la parole avec la question « Comment te vois-tu dans 10 ans ?»
Dans 10 ans, je me vois à Manip Radio avec ma famille.
Je me verrais être animateur de D3D.
Alors moi, dans 10 ans, je me vois douanier à l'aéroport.
Dans 10 ans, je me vois infirmière anesthésiste dans un autre pays.
Dans 10 ans, je me vois très riche.
Donc dans 10 ans, moi, je me vois avec une villa dans le sud, un chien, mes enfants et infirmière.
Dans 10 ans, je me vois faire des études pour être expert comptable.
Dans 10 ans, je me vois avec un métier où je suis contente, je suis heureuse. Pareil, mariée avec des enfants et une vie stable.
Alors dans 10 ans, je me vois à la campagne, près des montagnes, avec un chalet, avec un chat aussi. Et je me balade près des rivières, près de chez moi, voilà.
Je me vois avec une bonne situation et avec la possibilité de voyager de partout.
Dans 10 ans, je serai riche, mariée, sûrement pas en France. J'aurai 3 enfants, 2 garçons, une fille, et je serai surtout très riche.
À la rue.
Moi, je me vois professeur des écoles. Et voilà, je suis pas mariée, avec des enfants, une vie. Voilà, c'est tout. Je sais pas.
Avec des enfants, une vie de famille, avec le travail que je veux faire plus tard. Et,
ouais. Professeur de tennis dans un club dans le sud, avec une femme et des enfants, et sûrement mariée.
Mais dans 10 ans, je me vois architecte.
Dans 10 ans, je me vois avec une bonne situation, voyager et peut-être mariée avec des enfants.
Réussir ma vie.
Soit je suis expert dans l'informatique et je vends mes services, soit dans le marketing et le commerce.
Moi, je pense que dans 10 ans, je me vois avoir une femme, des enfants et peut-être avoir peut-être une maison déjà. Ce serait pas mal.
En train de profiter de la vie.
Je me vois dans ma maison à Saint-Tropez et avec mon agence immobilière de maison.
Pauvre, vraiment, je dépense beaucoup trop, je suis trop dépensière.
Je me vois joueur de handball en professionnel et peut-être avec joueur d'échecs à un assez bon niveau.
Moi, je me vois encore en études avec au moins un chat.
Non, 20 chats.
Non.
Et toi, Stéphane, comment tu te vois dans 10 ans ?
Probablement grand-père. Et puis toujours infirmier, mais certainement pas dans le modèle qu'on a actuellement.
D'accord. Bon, maintenant, c'est l'heure de son interview. Stéphane, en quoi consiste le métier d'infirmier libéral au quotidien ?
Globalement, on s'occupe des patients qui retournent à domicile. C'est-à-dire qu'il y a les patients qui sont à l'hôpital, il faut continuer à les prendre en charge à domicile. Et nous, on est là pour continuer la santé, sans pour autant être obligé d'amener des gens dans des instituts.
D'accord. Et du coup, quelle est la différence entre travailler à l'hôpital et en libéral ?
C'est une continuité. Il y a une différence parce que le contexte est différent. On est au domicile du patient, ce qui fait qu'il y a forcément des choses qu'on fait... qu'on ne ferait pas à l'hôpital, changer une ampoule, aider le patient finalement quand il a un problème avec son ordinateur, je ne sais pas. Il y a des choses en fait qui changent puisque c'est une continuité. On entre dans la vie du patient mieux que finalement lorsqu'on est à l'hôpital. L'hôpital c'est un passage et lorsqu'on suit le patient à domicile, on entre dans sa vie privée et souvent on devient même presque quelqu'un de la famille.
Oui. Et du coup, quel type de patients vous suivez le plus souvent, des personnes âgées ?
Alors, il est vrai que le métier a évolué au préalable. Enfin, il y a longtemps de ça, les patients étaient quand même plus des personnes âgées, avec des toilettes, avec beaucoup de soins de nursing, on appelle ça. Aujourd'hui, le travail évolue beaucoup puisque les soins évoluent beaucoup et on a des patients qui vont globalement de 14 ans jusqu'à 102 ans, puisque mon plus ancienne a 102 ans. Ces patients-là, on peut les avoir soit, comme on disait tout à l'heure, en post-opératoire, on peut les avoir en maintien à domicile, donc c'est pour les personnes âgées, ça le plus souvent. On a aussi des patients qui peuvent être handicapés ou des gens qu'on accompagne lors de traitements par le biais de cancer ou sur de l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire qu'on leur met en place des soins particuliers, nous on leur apprend à faire eux-mêmes leurs propres soins.
D'accord. Et qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier ?
Je pense que c'est le contact avec la personne. C'est ce qui me manquait lorsque j'ai travaillé à l'hôpital. La continuité, en fait, à l'hôpital, on devait entrer dans la chambre du patient, faire le soin, ressortir. Ça me manquait, il y avait quelque chose qui était trop passager. Et le fait d'aller à domicile me permet d'avoir ma propre organisation en cohérence avec les patients, mais aussi de pouvoir, en fait, c'est ça que je disais, entrer en relation et ce côté social qui existe de moins en moins aujourd'hui, notamment avec tout ce qui est les réseaux sociaux, tout ce qui est l'intelligence artificielle, ça enlève ce côté humain et aujourd'hui, c'est ce que je veux rajouter.
Et à l'inverse, quelles sont les principales difficultés ?
La principale difficulté, aujourd'hui, c'est ce que nous impose l'administratif,
d'accord,
c'est-à-dire le gouvernement. La manière dont le gouvernement souhaite contrôler notre activité fait que ça devient trop lourd et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'infirmiers qui, aujourd'hui, arrêtent.
D'accord. Et est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la CPTS ?
Même moi, j'ai eu du mal à comprendre au départ. Donc, je ne suis pas directeur, je suis président. C'est quand même une petite différence dans les mots. Les CPTS, c'est une association qui a été demandée par l'État. Au départ, ça a été proposé par des professionnels de santé, ça a été développé, ensuite ça a été demandé par l'État. Donc c'est financé également par l'État au travers de la CPAM, donc de l'assurance, la sécurité sociale et des ARS, Agence régionale de santé. Et chaque lieu va se définir sur une zone géographique. On va se donner en fait où est-ce qu'on est censé travailler. On va se regrouper entre professionnels de santé et on va travailler ensemble pour essayer d'améliorer le système de soins.
D'accord.
Comment en fait on va faire en sorte que les gens, tout le monde puisse accéder à son soin.
Et quel est ton rôle en tant que président de la CPTS ?
Il faut quelqu'un qui arrive à diriger tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de professionnels de santé qui sont très occupés. Donc tout le monde ne peut pas s'occuper de ça. Il fallait des professionnels qui puissent arriver à mailler, comprendre comment ça se passe, dialoguer avec tout le monde et arriver à dire bah voilà, la CPAM, donc l'assurance maladie, nous dit qu'il va falloir travailler par exemple sur la prévention et il va falloir guider, discuter avec tout le monde pour savoir qu'est-ce qui convient à tout le monde en termes de prévention et vers quels objectifs on va aller.
D'accord. Et selon toi, quel est le rôle des soignants est-ce que le rôle des soignants, pardon, évolue avec les nouvelles habitudes, genre le numérique, les réseaux sociaux, etc.
Ouais. Et pour beaucoup, je pense que le prochainement, en fait, la santé comme on la voit aujourd'hui n'existera plus. On a l'habitude de voir son médecin traitant pour certaines choses. Ensuite, on voyait un infirmier pour faire un soin et un pharmacien pour se faire délivrer des médicaments. Demain, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Il va y avoir des infirmiers qui seront en capacité, parce que dès la fin de l'année, ça va arriver, où on pourra faire des prescriptions et on pourra les voir en première intention, ce qui fait qu'il n'y aura plus forcément besoin d'aller voir forcément le médecin en première intention. Les médecins vont se spécialiser de plus en plus et vont gagner en compétences. Et on ira les voir peut-être que pour des choses qui sont ultra précises. Les pharmaciens aussi, on pourra mieux aller les voir, même presque pour faire de la consultation. Donc il y a énormément de choses qui changent. Comment, là c'est vraiment aussi une grosse problématique au niveau du système de santé, c'est que des gens qui aujourd'hui disent « je veux être infirmier ou je veux être médecin », on se pose la question de savoir est-ce qu'on veut vraiment être médecin comme on le voit aujourd'hui, puisque probablement ça n'existera plus.
D'accord. Et est-ce que tu es souvent confronté à des problématiques liées aux jeunes, comme l'usage des écrans ?
Oui, c'est un problème qu'on perçoit. Moi, en tant qu'infirmier libéral, je dirais que ce n'est pas trop mon problème. En tant que président de CPTS, c'est une autre façon de voir les choses, une autre facette, puisqu'on est beaucoup alerté par les orthophonistes, on est beaucoup alerté par les kinés, qui voient qu'il y a une sédentarisation, donc les jeunes ne bougent de moins en moins, et il y a une certaine forme d'addiction aux écrans, avec finalement des rapports sociaux qui sont bridés, qui sont abîmés, et on le voit en fait, hein, aujourd'hui les gens n'arrivent plus à se parler entre eux, ça pose un vrai problème, et ça c'est dû notamment aux écrans, donc oui c'est un problème, moi je ne l'ai pas à titre personnel, ni avec mes enfants, ni dans mes patients, mais on le voit aujourd'hui beaucoup, et pour autant... Emma, tu as fait un stage avec moi, donc on a pu voir qu'on avait fait une intervention sur l'addiction aux écrans et on n'a pas réussi à susciter beaucoup d'engouement sur ce sujet.
Donc, comme vous avez dit, aujourd'hui, les écrans occupent une place très importante dans la vie des ados. Le téléphone, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, ils rythment notre quotidien. Parfois, presque, ils deviennent envahissants. Lors d'un ciné-débat que tu as organisé en février dernier, il me semble, nous avons pu échanger sur les effets des écrans sur la santé des jeunes. Ce moment a soulevé plusieurs questions. À partir de quand peut-on parler d'addiction aux écrans chez les jeunes ?
Eh bien, dans le film, ils n'ont pas réussi à répondre à cette question, puisque l'addiction va apparaître à partir du moment où on ne peut plus s'en passer. Ce n'est pas tellement sur une durée de temps, c'est une façon d'utiliser. Si une personne se dit qu'au bout d'un moment, limite, elle se met à trembler, elle se dit qu'il faut vraiment que je regarde les écrans et elle ne peut pas s'empêcher, que ce soit en voiture, devant un repas, n'importe quoi, de prendre son téléphone pour l'allumer, c'est que c'est une addiction.
Okay.
Et même si c'est que 10 ou 15 minutes.
Ok. Et est-ce que les écrans ont un impact sur la santé ?
Oui, parce qu'on utilise mal les écrans. Les gens les regardent trop près. Donc en fait, on s'abîme de façon, cette façon-là, la rétine. On s'abîme les yeux. On la regarde la nuit, souvent avec un écran qui est aujourd'hui qui s'adapte, mais en tout cas nous mal adapté, puisqu'on va mettre des fois la luminosité quasiment à fond et on reçoit ça en plein dans les yeux. Et en termes de santé, on a aussi des problématiques. On le voit des fois, c'est des vidéos rigolotes, mais on est tellement accro à ça qu'on s'empêche des murs, on tombe des trottoirs, on regarde pas où on marche. Et pour de vrai, c'est des soins qui nous sont apparents, puisqu'on a eu soigné, et encore il n'y a pas si longtemps, quelqu'un qui s'était abîmé le genou juste parce qu'il est tombé et regardait son téléphone.
Ah ouais. Et du coup, quel conseil tu donnerais aux lycéens ?
Pour limiter les écrans ?
Ouais.
D'essayer de se forcer à savoir combien de temps on passe dessus. Comme on avait vu dans le film, je pense que c'est ultra intéressant, non pas d'essayer de se limiter, mais d'être conscient du temps qu'on passe dessus. Et le noter, ou alors il existe des applications pour ça, là j'en ai pas en tête, mais d'essayer de regarder, de dire tiens aujourd'hui j'ai passé 4, 5, 6, 7 heures sur le téléphone, et est-ce que là c'est cohérent en fait avec ce que je veux de ma vie.
Ok, c'est super intéressant.
Toujours ce que je dis.
Je confirme. Même si les écrans présentent des avantages comme communiquer, s'informer ou se divertir, leur usage doit rester maîtrisé, comme l'a dit Stéphane. L'objectif n'est pas de les supprimer, mais de trouver un équilibre. En conclusion, les écrans font partie intégrante de notre quotidien, mais il est essentiel d'en faire un usage raisonné pour préserver sa santé. Merci Stéphane.
Merci Emma.
Allez, un intermède musical avec le groupe Blaze de Lenny en seconde de lycée pro communication visuelle plurimédia et son cousin Andrea avec leur titre Train in Town. C'est parti! Eh bien, ça dépote. Merci, Lenny. Bon, maintenant, nous allons poursuivre avec un très joli texte de Simon Jopard, interne en médecine, lu par Héloïse et accompagné en direct par Tiziano.
principe de la médecine générale, c'est que tu vois de tout et de toutes, avec une moyenne de 3 consultations requérant un examen entier du corps par jour. On a le temps de voir passer beaucoup de personnes, des personnes avec leur âge, leur histoire, leurs traits, leur morphologie, leurs marques, des gens concrets. Je sais que ça ne va pas servir à grand-chose de le répéter, mais le corps humain n'a pas de standard. Personne n'est taillé dans le marbre, personne n'a une peau photoshopée. Personne n'a des proportions Instagram. Les tétons sont tous différents, les vergetures sont normales, les poils sont naturels. Les pores sont juste votre peau qui fait son job. Ne serait-ce que la cellulite, c'est un truc tellement commun. Tous les corps ont des taches, tous les corps ont des reliefs. Même un coach sportif, reçu pour une tendinite, avec un corps très musclé, il avait les orteils complètement tordus. Même des gens sportifs ont du gras. Des gens très bien maquillés, ont des articulations tordues qui dépassent. Des gens très jeunes ont des varices. L'anatomie n'est pas une vocation et n'est pas vocation à être moulée par la société. Notre anatomie, elle est déjà belle. Le nombre de gens avec des yeux, des seins, des testicules, un dos, asymétriques. Toutes ces personnes sont belles, je vous jure. La perfection, c'est vous. C'est votre vie. C'est votre corps qui vous incarne le mieux possible. Un corps, vous, est beau. Les boutons, les plaques, les stries, les cicatrices, c'est tellement normal. C'est tellement inhérent à ce qu'on est. N'ayez pas honte. Je sais, c'est con, nier, et ça ne sert à rien quand on est mal, quand on complexe. C'est pas facile, c'est pas 10 phrases qui font tout changer. Mais juste, si 2 secondes on peut se poser, de façon objective, votre corps, il est là. Il est ce qu'il est, il est ce qu'il peut. Vous en faites ce que vous voulez, mais essayez de l'aimer un peu plus. Parce que je peux vous jurer qu'il n'y a absolument rien de laid. Les imperfections, c'est ce qui est la norme. Vraiment, littéralement. C'est normal. T'es belle, t'es beau. Si, si.
Très touchant, merci Héloïse. Et on termine un poème écrit par Célia, qui, je rappelle, est malade, et lu par Tiziano.
Je serai vendredi. Pourquoi penser à dimanche, quand au fond de nous, c'est une avalanche. Le temps passe si vite, c'est une loi. Les jours s'enfilent, sans arrêt, sans foi. La vie est courte, c'est un moment joyeux, où chaque instant compte pour être heureux. Les lundis s'effacent, les dimanches deviennent éternels. C'est comme un 8 intemporel, qui nous entoure d'une douce étincelle. Le temps nous entoure d'une flamme. Le temps s'écoule avec sa fumée, qui nous invite à vivre, aimer.
Eh bien, chers auditeurs, j'ai le regret de vous dire que notre émission est terminée. Merci à Stéphane d'être venu.
Merci.
Ça vous a plu ?
C'était génial, je reviendrai.
Une pensée pour Célia et à la régie, Monsieur Noureux. N'hésitez pas à partager sur vos réseaux et à mettre des commentaires sur notre site. À bientôt sur Radio Slash. Radio.